Merci d'être venu. Je m'excuse pour ce petit retard. De nouveau, comme la dernière fois, aujourd'hui, je me propose de parler jusque vers midi. Je me propose, comme la dernière fois, de continuer jusque vers 12:30. Donc, sentez-vous libre de quitter quand vous voulez. Donc, le rythme sera un peu plus lent, mais on aura quand même le temps. Et je dois faire une référence à la leçon inaugurale qui aura lieu bientôt, pour vous dire, comme je l'ai déjà fait la semaine dernière, que là, dans cette leçon inaugurale, je compte faire la distinction entre étudier une œuvre littéraire et l'écouter. L'étude étant l'étude d'une œuvre littéraire exigeant de nous, exigeant de celui qui les étudie, de se placer à l'extérieur, de les considérer comme les objets d'un examen cognitif. Et les études des œuvres littéraires se font donc en termes de savoir. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles, dans l'esthétique contemporaine, l'importance de l'aspect cognitif est énorme. Il y a des esthéticiens qui soutiennent même que la satisfaction esthétique a un caractère cognitif. Être heureux, c'est connaître quelque chose, c'est connaître le bonheur. En réalité, ce terme de cognitif qui est utilisé par les esthéticiens à la suite du travail de Nelson Goodman aux États-Unis a beaucoup d'usages. Il s'agit parfois d'une véritable connaissance, mais parfois il s'agit tout simplement de ne pas réduire la contemplation ou des œuvres esthétiques, ou des œuvres artistiques plutôt, j'aurais dû dire, de ne pas la réduire à tout simplement une émotion, une expérience d'ordre purement émotionnel. Parce qu'effectivement, même dans un art où l'émotion est très très importante comme la musique, en écoutant la musique, nous n'éprouvons pas tout simplement des émotions, mais nous prenons acte d'une forme, d'une structure, d'une organisation, d'un message. L'émotion vient ensemble avec l'appréciation de cette organisation et de ce message. Je suis tenté ici de donner un exemple, je ne vais pas le chanter. Cette fugue dans le Requiem de Mozart, le Quam Olim Abrae Promissis, qui quand jadis a promis à Abraham, qui est un moment extrêmement sérieux, c'est un appel à une promesse faite jadis par la divinité. Ce que nous éprouvons là, ce n'est pas tout simplement une émotion, mais nous saisissons un message et une organisation. Nous en prenons conscience. Et vous voyez, là, je voudrais me séparer un peu, mais de manière très fine, si je peux dire, de l'idée que la réception des œuvres d'art implique véritablement un acte cognitif. C'est plutôt une prise de conscience. Et prendre conscience n'est pas exactement la même chose que connaître. Et ici, dans ces cas-là, le terme de cognitif doit être saisi d'une manière un tout petit peu plus détendue, si j'ose dire, parce que comprendre contient cette métaphore qui est de prendre, de comprendre, de saisir, tandis que prendre conscience se rapproche plutôt de l'écoute. Si ça signifie entrer dans un rapport plus intime avec l'œuvre. Et de nouveau, dans la leçon inaugurale qui, espérons-le, pourra avoir lieu la semaine prochaine, je parlerai de la distinction entre connaissance et reconnaissance. Reconnaissance, l'opposé de la connaissance étant... l'opposé de connaître, c'est se tromper. L'opposé de la reconnaissance, c'est... l'opposé de reconnaître, c'est méconnaître. Mais je vais développer donc maintenant ces idées sur le caractère personnel intime l'écoute, de l'écoute qui s'ouvre vers son objet, qui essaie de le capter, ou encore mieux, essaie de l'accueillir. Hein. L'accueil et la reconnaissance seront l'objet de mes considérations dans la première partie de cette leçon d'aujourd'hui, après quoi je parlerai de précisément de ces caprices des dieux. Vous verrez ce que j'essaierai de vous dire là. Donc, parlons donc de reconnaissance, reconnaître. Reconnaissance, nous sommes devant une œuvre artistique, nous sommes devant une œuvre littéraire, une œuvre musicale, et nous essayons de l'accueillir, de la reconnaître. Et reconnaître a trois sens possibles ici. Tout d'abord, reconnaître signifie le premier sens de la reconnaissance est la connaissance d'une chose en tant que déjà connue d'une certaine manière. On reconnaît quelqu'un. Ouais. Si nous prenons Britannicus de Racine, dont nous avons déjà parlé un peu, nous voyons que dans Britannicus, il y a un débat entre deux manières de comprendre la liberté. Il y a la liberté du tyran, la liberté de Néron, qui est esclave de ses passions, au fond, mais qui croit pouvoir faire tout ce qu'il veut. Hein. Et d'autre part, il y a la liberté de Junie qui le refuse, qui le rejette. Et même lorsque nous assistons pour la première fois à une représentation de Britannicus, ou même lorsque nous lisons Britannicus pour la première fois, il n'est pas exclu que le lecteur, le spectateur que nous sommes, se dise « Ah, voilà, oui, voilà quelque chose que d'une manière obscure, je connais et je reconnais cette faiblesse qui vient de la violence des passions. La violence des passions nous rend faibles et c'est une sorte de liberté d'agir, mais c'est une liberté plutôt imaginaire. Je reconnais quelque chose là. Et je reconnais donc quelque chose qui se trouve dans l'œuvre. Comprendre une œuvre signifie reconnaître quelque chose qui s'y trouve, qui est déjà là. Et nous sommes donc, avec ce premier sens du terme reconnaissance, nous sommes encore, d'une certaine manière, dans le domaine du prendre. Nous sommes encore dans le prendre. Nous comprenons cette maxime, cette vérité, enfin, cette situation, appelez-la comme vous voulez, est là. Et je la reconnais, je la comprends. Hein. Et je dois ajouter tout de suite... que ce n'est pas nécessaire d'aimer ce qu'on reconnaît ici. Ce n'est pas tout à fait nécessaire lorsqu'on comprend donc, dans ce premier sens, la substance d'une, ou un élément dans une œuvre littéraire ou artistique, ce n'est pas nécessaire d'aimer ce qu'on reconnaît, ou d'adhérer, vous voyez. Il existe dans cette reconnaissance, dans ce premier niveau de reconnaissance, un volet, pour ainsi dire, impartial, détaché. Oui, bah oui, bon, je vais voir un film, enfin, quelconque, sur, je ne sais pas quel thème, les pouvoirs miraculeux des mutants, mettons. Et je vois là que un des personnages, d'une manière que, mettons, je n'ai pas tout à fait saisi, a des pouvoirs spéciaux, et il y a une bouteille d'eau qui tombe à une certaine distance, et lui, il s'efforce de l'attraper, il est trop loin de la bouteille, et sa main, ou plutôt son bras, s'allonge miraculeusement, il attrape la bouteille, et il est lui-même surpris de ses pouvoirs miraculeux. Je ne me rappelle pas du nom de ce film, mais il existe, enfin, les gosses aiment ce genre d'imbécilité. Bon, je comprends, j'ai compris qu'il s'agit d'une représentation de notre désir, du désir de chacun d'entre nous de dépasser les pouvoirs de notre corps, notre espèce, enfin la nature, nous a donné. Mais sans nécessairement l'aimer, parce qu'on peut tout dire que c'est une représentation assez naïve, même stupide, de ce désir. Mais quand même, il s'agit de comprendre. Il s'agit d'une première reconnaissance. Je reconnais instantanément mon propre désir parfois d'atteindre des choses que je ne peux pas atteindre. Et à un niveau un peu plus raffiné, il arrive souvent que dans la lecture d'œuvres écrites dans une autre période ou dans une autre culture, nous comprenions de quoi il s'agit sans nécessairement adhérer, sans nécessairement aimer ce que nous reconnaissons. Et j'ai ici des citations que je vais peut-être ne pas lire en détail, d'une pièce que nous allons étudier la semaine prochaine, « La vie est un songe » de Calderon, une très 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 belle pièce, mais il y a un moment donné, il y a un dialogue entre un personnage féminin, Rosaura, et son père Clotald, un père qu'il a abandonné et qu'elle retrouve, et elle demande à son père de l'aider, elle, à se venger de son séducteur Astolphe, qui après l'avoir séduite, elle, veut maintenant, par arrivisme, épouser une fille qui sera probablement l'héritière de la couronne polonaise, parce que ça se passe en Pologne. La Pologne et Lituanie, comme vous le savez, au XVIe siècle, c'était une des trois ou quatre grandes puissances. C'était une puissance beaucoup plus importante que l'Angleterre à l'époque. Bon, alors, et entre les deux, il y a, entre le père et la fille, il y a un dialogue. Un dialogue qui est très beau si nous acceptons les règles de d'une certaine rhétorique. Donc, elle lui dit à son père, tu le sais, je suis arrivée de Pologne, pauvre, humble et malheureuse, en me plaçant en Pologne, sous la protection de ta valeur, de ton courage, j'ai trouvé en toi de la compassion, etc. Son père, cependant, qui normalement devrait bien entendu l'aider à tuer Astolphe, ne peut pas tuer Astolphe parce que, quelques scènes plus tôt, Astolphe lui a sauvé la vie. Donc, Clotald répond, « Comment donc, je te le demande, vais-je pouvoir à présent, moi, qui n'ai pas le cœur ingrat, donner la mort à qui m'a donné la vie ?» Donc, il est, à ma sollicitude, il dit, est partagé entre vous deux quand je songe que je t'ai donné la vie et que je l'ai reçue de lui. Sa fille, en France, Corneille fait des jeux pareils. Sa fille répond, chez un homme hors du commun, autant l'acte de donner est noble, autant recevoir rabaisse. Donc, tu as reçu la vie d'Astolphe, mais il ne faut pas. Cela, en fait, t'humilie. Et Clotald n'est pas d'accord. Il dit, bien que la noblesse réside du côté de celui qui donne, la reconnaissance pour un geste noble est du côté de celui qui reçoit, ainsi de suite. Alors, ce sont des sublimes arguties à une époque où les règles de la rhétorique étaient différentes de celles d'aujourd'hui. Et pour arriver à leur accorder, la considération qui leur est due, l'effort est considérable. On peut ne pas arriver à aimer cela. Et le succès d'une pièce comme La vie un songe repose sur la fable qu'il raconte plutôt que sur ce genre de jeu. Mais on les reconnaît, on sait de quoi il s'agit. Et j'ai parlé d'accorder la considération qui leur est due, et comme ça on peut passer au deuxième sens du terme reconnaissance, qui est précisément celui-ci. Accorder à quelque chose la considération qui leur est due. On reconnaît enfin l'importance et la beauté de la musique du XVIe siècle, admettons. Ou alors, j'attends un autre exemple, j'attends toujours que la peinture allemande du XIXe siècle soit enfin reconnue à son immense, véritable valeur. Okay. Concernant Britannicus, il s'agit de reconnaître la force, la qualité de l'œuvre, la progression inéluctable vers le dénouement, cette progression qui est inscrite dans les hésitations de Néron, tiraillée entre ses deux conseillers et entre ses deux penchants, la vertu et les pulsions. Cette deuxième reconnaissance aboutit à ce que Jean-Marie Schaeffer a appelé jugement de réussite artistique. Le jugement de réussite. Lui, il l'appelle d'un terme un peu plus technique, il dit le jugement de réussite opérale de œuvre. Mais disons, on peut tout simplement dire le jugement de réussite artistique, et je reconnais telle œuvre comme une réussite. C'est une deuxième reconnaissance. Voilà. Mes exemples sont Britannicus de Racine et Le Bossu de Paul Féval. Certains d'entre vous sourient, c'est normal, et j'ai choisi à dessein Le Bossu de Paul Féval. Je ne sais pas si vous l'avez lu. C'est très bon, c'est très très bon. C'est très réussi. C'est une réussite opérale considérable. Hein. C'est mieux que le dernier film. Il y a eu beaucoup de films sur Le Bossu, mais le dernier n'était pas mauvais. C'est le dernier film qui m'a fait lire le livre, mais le livre a une autre épaisseur. Hein. Donc, je dis cela parce que, évidemment, à l'intérieur de la reconnaissance de, c'est-à-dire accorder à quelqu'un, à quelque chose, la considération qui leur est due, il est possible de procéder à des distinctions de niveau. Parce que je reconnais la réussite du bossu, mais je suis libre de ne pas reconnaître ou de ne pas vraiment apprécier la valeur ou l'utilité du genre artistique que cette œuvre représente auquel cette œuvre appartient. Je peux toujours dire, bof, oui, l'art de masse est une forme inférieure. Là, il faut vraiment avoir la mimique. Il faut avoir la mimique parce que l'art de masse peut se prononcer avec deux visages différents. Vous voyez, vous pouvez dire l'art de masse, enfin avec une sorte de mimique, un peu une sorte de compassion, un mélange de compassion et de mépris pour ces pauvres d'esprit qui s'amusent à lire Le Bossu. Hein. Ou alors, je ne sais pas si vous avez déjà encore ceci en France, mais aux États-Unis, nous avons ces critiques littéraires et ces professeurs de littérature dans les universités qui découvrent l'art de masse, qui pensent que puisque nous sommes dans une époque démocratique, il faut encourager l'art de masse, il faut absolument mépriser ces ces œuvres incompréhensibles comme Britannicus. Enfin, et là, quand on dit art de masse, on a comme une sorte de lumière qui émane du village. Donc, lorsque quelqu'un dit art de masse, il faut toujours regarder le visage pour comprendre un petit peu l'option concernant la réussite artistique de ce. De ce genre. Vous voyez, on a beau se moquer de gens qui méprisent ou qui adorent l'art de masse, mais il faut tout simplement essayer de se souvenir qu'il y a quelques siècles seulement, au XVIIe siècle, en Angleterre et en France. Et en France, il y avait des gens qui considéraient que toute la poésie, la littérature en général, était un peu méprisable. C'était quelque chose de méprisable et de dangereux. On parlait surtout du théâtre. Le théâtre était quelque chose qui n'était pas du tout recommandable. En France, il y avait des esprits qui méprisaient le théâtre. En Angleterre, à un moment donné, on a même interdit le théâtre. Donc, vous voyez que ce n'est pas tout simplement un niveau de la littérature qui a pu être méprisé, mais l'ensemble de cette activité. Mais ici, donc, j'ai mentionné ceci tout simplement pour rappeler que cette deuxième reconnaissance consiste à accorder à quelqu'un, à quelque chose, la considération qui leur est due, que ce deuxième type de reconnaissance est quand même l'objet d'un débat et parfois d'une lutte. Il faut parfois que la littérature se batte ou le théâtre se batte pour être reconnu. Et nous sommes donc dans le domaine qui est considéré par Hegel très justement comme un mobile essentiel de l'action humaine, la lutte pour la reconnaissance. Et ici, nous ne sommes plus tellement dans le domaine du prendre que nous sommes déjà dans le domaine, je dirais, de l'échange, d'une certaine réciprocité. Mais on arrive enfin au troisième niveau de reconnaissance, qui signifie en français gratitude. Reconnaissance, c'est la gratitude. En anglais, to recognize ne veut pas dire gratitude. Il y a d'autres termes pour exprimer la gratitude. Mais en France, ce terme qui peut nous. Disons, on peut suivre l'essence de ce terme pour arriver à ce troisième niveau, à savoir, accorder à quelqu'un la considération qui lui est due. À quelque chose, la considération qui lui est due pour ses mérites, en éprouver de l'admiration d'abord, mais de la gratitude ensuite aussi, ou en même temps de la gratitude. Nous sommes donc dans le domaine de la. Nous sortons du prendre, nous sortons même de l'échange, nous sommes dans le domaine du don et de la gratuité, de la générosité. Nous sommes dans le domaine de la. L'œuvre, cette gratitude vient du sentiment que l'œuvre est un don, qu'elle nous donne quelque chose. Dans le cas de Britannicus, évidemment, il y a la gratitude pour cette perfection, pour cette force et cette pureté qu'elle suscite. Hein. Si vous aimez, comme on peut aimer le bossu, il y a une gratitude, il y a même une gratitude qu'on éprouve en lisant Rocambole. C'est la gratitude d'être. J'ai lu Rocambole quand j'avais déjà un certain âge, donc j'ai éprouvé une profonde gratitude à l'égard de ce roman parce qu'il m'a permis de me retrouver à mon âge à peu près dans la même mentalité que j'avais quand j'avais 12 ans. Et je ne pouvais pas laisser un livre d'aventure, je ne pouvais pas l'abandonner. C'était une sorte de gratitude pour la réussite opérale, comme dirait Schaeffer. Alors, je vais maintenant faire quelques remarques sur le plaisir que nous prenons lors de la fréquentation des œuvres d'art. Hein. Et je voudrais d'abord dire que c'est précisément cette reconnaissance qui est en train de se métamorphoser en gratitude, qui se trouve à la source du plaisir qu'on appelle esthétique. Moi, je ne vais pas utiliser ici le terme de plaisir esthétique, puisqu'il y a trop de difficultés. Et je ne vais même plus utiliser le terme de plaisir, parce que lui aussi, il pose des difficultés. Alors, quel plaisir peut-on avoir à pleurer à la fin d'une tragédie? Ce n'est pas véritablement un plaisir, il s'agit de quelque chose qu'on pourrait plutôt appeler une joie. Hein, une joie. Je fais appel ici à la distinction en anglais entre pleasure and delight. Ce qu'on a, on n'est pas exactement pleasure, c'est du delight, c'est quelque chose de très différent. Hein. Et ce plaisir, cette joie que nous éprouvons devant une œuvre artistique, en écoutant une œuvre musicale ou un spectacle, une lecture d'une œuvre littéraire, vient de la triple reconnaissance, à sa source dans la dernière, mais je vais étendre, disons, un petit peu le domaine d'origine de ce plaisir. Il vient de cette triple reconnaissance de ce que l'œuvre nous propose et que nous reconnaissons là, de la qualité que nous reconnaissons et de ce bien gratuit qu'elle m'offre. Vous voyez donc, c'est une manière, cette distinction nous aide aussi à distinguer l'aspect désintéressé des œuvres d'aspects qui ne sont pas désintéressés. Parce que le propos d'une œuvre n'est pas toujours désintéressé, et cependant, le don qu'elle nous fait est désintéressé. Et je dois noter aussi que le plaisir, que la joie, peut précéder les deux autres reconnaissances. Il existe une masse, un grand nombre d'œuvres, et surtout celles qui sont produites dans l'époque classique, nous procurent un plaisir séducteur, un plaisir qui nous attire, et qui nous ce plaisir du don gratuit, on l'éprouve tout de suite, et il nous stimule, il nous invite à aller plus loin, il nous invite à chercher le sens de l'œuvre. J'ai pas ici une reproduction d'un tableau que j'ai revu récemment, un tableau de Claude Lorrain. Mais j'essaierai de parler de ce tableau comme on le faisait à l'époque où on n'avait pas encore des projecteurs et on ne pouvait pas les voir. C'est un tableau de Claude Lorrain qui se trouve à Chicago. Qui représente un cortège de pèlerins qui vont à Delphes. Et vous voyez à gauche ce groupe d'hommes et de femmes couronnés de fleurs avec des instruments de musique et visiblement contents, mais d'un bonheur tranquille qui se dirige vers une colline, une montagne assez haute, censée représenter Delphes. Claude Lorrain n'a évidemment jamais vu Delphes, donc il ne sait pas qu'il y a un chemin serpentine parsemé de temples. Donc il représente seulement un seul temple au sommet de cette colline boisée. J'avoue que chaque fois qu'on regarde ce tableau, comme tous les tableaux de Claude Lorrain d'ailleurs, on est séduit, il y a un bonheur immédiat, et que j'essaie d'identifier à ce delight, à cette joie de la gratitude pour ce don qui est le tableau. Mais j'ai récemment revu le tableau et j'étais avec quelqu'un qui regarde les tableaux plus tranquillement que moi je le fais d'habitude, malheureusement. Et donc j'ai regardé un peu plus attentivement et on a constaté que dans ce tableau, il y a curieusement deux sources de lumière. Il y a deux sources de lumière. Il y a une lumière qui vient du spectateur placé à gauche, et qui éclaire les personnages, ce petit groupe qui se dirige vers la colline, vers la montagne. Et les ombres sont créées par cette lumière qui vient du côté d'en face. Mais derrière la colline, on aperçoit, comme toujours à l'horizon chez Claude Dorin, ou presque toujours, la mer. On aperçoit la mer. Et derrière la colline, il y a une deuxième source de lumière. Une sorte de soleil invisible qui semble se coucher dans la mer, on ne sait absolument rien, mais il y a une sorte d'aura de lumière autour de la colline et autour du temple. Et nous nous sommes demandé qu'est-ce que cela peut signifier. Bon, on peut immédiatement interpréter, mais voilà, pour savoir ce qui se trouve dans ce tableau, ce qui est là, nous devons passer à un autre type de reconnaissance que la simple gratitude pour le don. Et bon, l'hypothèse la plus élémentaire, disons, je ne sais pas si elle est valable, si les vrais spécialistes de Claude Lorrain seraient d'accord ou non, mais disons qu'un spectateur à moitié naïf qu'on était, on s'est dit tout de suite, bon, c'est la lumière terrestre, bien entendu, et le lumineux, celui qui éclaire de manière mystérieuse et cachée ce temple derrière la montagne. Enfin, on peut continuer. Je ne voulais tout simplement que vous donner un exemple de situation où le plaisir de la gratuité du don vient d'abord et, disons, la compréhension vient ensuite. Et je voulais aussi souligner qu'il faut analyser un peu, de manière un peu plus subtile, la réception, parce que je peux éprouver seulement une ou seulement deux de ces trois niveaux de reconnaissance. Je peux comprendre le sens d'une œuvre sans nécessairement la reconnaître pour ce qu'elle est ou éprouver de la gratitude à son égard. Hein. Et vice-versa. J'aurais toujours pu rester dans la situation initiale, d'éprouver une immense gratitude pour l'œuvre de Poussin, sans nécessairement essayer de comprendre de quoi il s'agissait. Hein. Mais vous voyez que si c'est comme ça, tout cet argument, en réalité, est conçu pour mettre en doute une idée répandue qui est celle de la subjectivité du goût. C'est que chacun d'entre nous a le droit naturel de juger les œuvres d'art comme il l'entend. Et ceci ne me semble pas vrai. Ceci ne me semble pas vrai. Cette idée a été critiquée, entre autres, par le regretté Rainer Roschlitz, dans son livre « L'art au banc d'essai ». C'est une critique très intéressante dont je profite ici. Et prenons un exemple pour voir un peu de ce que je veux dire. Je vais vous prendre un exemple qui vient de la vie quotidienne. Imaginez une situation qui est inconcevable ici, puisqu'il n'y a pas de fenêtre, mais imaginez un groupe d'amis qui sont devant la fenêtre et voient plusieurs personnes dans la rue et disent « Ah, voilà Jean !» Et les autres disent « Ah oui, il est là, qu'est-ce qu'il y a ? Peut-être qu'il vient se joindre à nous. » Mais il y a quelqu'un qui dit « Non, c'est pas Jean. » C'est pas Jean. Vous vous rendez compte que s'il dit « C'est pas Jean », il faut qu'il apporte des arguments. Et oui, c'est Jean. C'est un peu loin, mais quand même, on voit bien son chapeau. Il y a un chapeau vert qu'il a acheté en Bavière et avec une plume. C'est lui. C'est la seule personne dans notre ville. Maintenant, ça se passe à Tours. C'est la seule personne de Tours qui a un chapeau bavarois. Il faut argumenter. C'est la première reconnaissance. On reconnaît quelque chose qui est là. Ils reconnaissent Jean, mettons, et ils continuent de discuter en disant c'est Jean, oui, notre ami. Oh, je ne veux pas le voir, ce raté de Jean, cet imbécile. Mais tous les, et tous les autres, mais non, mais Jean est quelqu'un de tout à fait remarquable, ce garçon, j'en dis. Il y a ce petit débat. De nouveau, celui qui dit Jean est un imbécile, ou enfin qui n'aime pas Jean, doit argumenter ceci, doit argumenter cela, vous voyez. Pourquoi il considère que Jean est un raté ou... Mais il peut, cette personne qui n'aime pas Jean, tout simplement dire, tout le monde voit Jean, on le reconnaît, et lui il dit, oh, c'est quelqu'un que je n'aime pas. Et là, il a le droit de le dire. Il a le droit de le dire. C'est la troisième reconnaissance, c'est celle du don. Parce que ce Jean vient se donner à ses amis, il offre à ses amis sa présence, et quelqu'un dit, non, je ne l'aime pas. On a toujours le droit de refuser le don. Donc, en quelque sorte, cette subjectivité, qui est censée avoir le droit de prononcer des jugements esthétiques à sa guise, n'a en réalité que le droit de refuser le don. Là, nous avons le droit de refuser un don, et nous avons le droit de dire j'aime pas Hamlet, ou j'aime pas Britannicus, ou j'aime pas le bossu. Mais je ne sais pas si nous avons le droit subjectif de refuser la première et le premier et le deuxième niveau de reconnaissance, celui qui est la compréhension de ce qui se trouve dans l'œuvre et celui qui consiste à reconnaître la réussite artistique, la réussite opéra. Hein. Voilà. Ceci n'était en fait qu'un développement de cette idée de l'écoute de l'œuvre opposée à l'étude, et j'essayais donc de voir un petit peu ce qui se passe lorsque nous recevons, lorsque nous écoutons, lorsque nous sommes à l'acte de réception d'une œuvre littéraire ou artistique. Et puisque nous parlons de cette triple reconnaissance, je dois ajouter un élément que j'ai mentionné, que je vais mentionner plutôt jeudi prochain, mais qui me semble essentiel, à savoir que l'écoute des œuvres littéraires est une écoute à un caractère fiduciaire, comme on dit, monnaie fiduciaire. Vous voyez, l'œuvre est remise à nos soins, nous est offerte. Elle ne nous est pas tout simplement offerte comme un don. C'est quelque chose de supplémentaire. Elle est remise à nos soins. Nous devons nous occuper d'elle un petit peu, vous voyez. Il nous incombe de la prendre en confiance. Et ici, il y a un terme anglais qui s'applique parfaitement. In trust, en confiance. L'œuvre nous est donnée en confiance. Et là, je citerai un passage de Peggy dans Il ne faut pas dire. Bon, Peggy, comme toujours, il voit des choses qui sont essentielles, mais il répète un peu trop ce qu'il a à dire. Donc, vous allez être patient avec moi. Je vais enlever certains mots parce qu'en plus, il a une obsession. Il croit que tout ce qui est mauvais dans notre espèce, dans notre situation au monde, tout vient du monde moderne, car avant, c'était beaucoup mieux. Donc, je vais enlever de ce texte le terme moderne, puisque je ne crois pas que la situation qu'il critique est tout simplement notre situation, mais c'est comme ça parmi les humains. Mais il voit quelque chose de très important à propos de ce caractère fiduciaire de l'écoute littéraire. Et il dit, c'est encore une de ces superstitions, un de ces vices capitaux du monde, que cette idée, que cette illusion, que cette erreur, qu'il y aurait une sorte de supériorité mystérieuse de celui qui écrit entre les lignes. Une sorte de supériorité tacite et latente qui fait sourire les avisés, les entendus, je sais quelle supériorité d'entente et de confidence qui fait cligner les yeux, ou qui fait cligner des yeux plutôt, discrètement, les gens spirituels, pourvu qu'ils en soient avertis. C'est éminemment un vice odieux, il dit, de véritable frivolité. Rien, au contraire, n'est aussi opposé à la méthode. Rien n'est aussi contraire à la probité, rien n'est aussi contraire à la grande pureté, à la grande beauté. J'ai enlevé quelques mots ici. Il ne faut pas plus écrire et faire lire entre les lignes qu'il ne faut parler et faire entendre entre les mots. Il faut écrire dans les lignes. Il faut parler dans les mots. Il faut lire dans les lignes. Il faut entendre dans les mots. Okay. Disons, spontanément, je suis à 100% d'accord avec cette idée normative. Normative, ouais, ce n'est pas une description d'un état de fait, c'est la proposition d'un idéal. Et ceci, des amis m'ont fait voir quand même que, bien que ce soit un idéal, il n'est pas toujours appliqué, cet idéal, et que parfois, dans notre conversation, il nous arrive de ne pas tout dire. La semaine dernière, je prenais comme comparaison de l'écoute littéraire une promenade. Je disais, bon, j'écoute une œuvre littéraire comme je me promène avec mon fils, il me raconte des choses, je l'écoute, je fais attention à lui, il me confie des choses, il remet, disons, des choses à mes soins. Et mon fils était particulièrement simple et explicite dans ce qu'il me racontait. Je n'avais pas besoin trop interpréter ce qu'il me disait, on se comprenait immédiatement, mais il y a parfois des enfants qui ont de la difficulté à s'exprimer. Il faut aussi savoir entendre ce qui n'est pas tout à fait dans les mots. Mais ce que je voudrais accepter dans l'idéal de Peggy est la chose suivante, c'est que dans la lecture littéraire, dans l'interprétation littéraire, l'attitude fondamentale, l'attitude initiale et de base est celle-ci, c'est de lire dans les lignes. C'est de ne pas se dire, il faut d'abord lire ce qui n'est pas là. Il ne faut pas, courir après le texte qui est déjà manifeste. Il ne faut pas oublier que le texte est, l'œuvre est déjà là. Je dis tout ceci pour insister sur le thème de la confiance. Il est impossible d'entrer dans un rapport valide, véritable, avec une œuvre littéraire, comme avec une personne humaine d'ailleurs, sans avoir cette confiance. Hein. Et une confiance mutuelle. Bon. Alors, avec ce programme, optimiste et de confiance, je vais aborder maintenant le côté plutôt mélancolique et triste de la leçon d'aujourd'hui, qui est une réflexion sur la manière dont la littérature, et surtout la littérature épique et tragique, depuis les débuts de la littérature écrite, réfléchit au malheur. Et pourquoi le malheur? Voilà pourquoi. Parce que dans la leçon inaugurale, je rattache l'existence de la littérature et de la fiction littéraire en général, je la rattache à un fait élémentaire de notre vie, je ne dirais pas quotidienne, de notre vie tout court. Je crois que j'ai déjà fait allusion à cela la semaine dernière, à savoir que je ne suis pas tout à fait ma vie. Il n'y a pas d'identité parfaite entre moi et ma vie. Essayer de remplir un formulaire biographique, date de naissance, nom, lieu de naissance, pays, département, nom des parents, votre nom, études élémentaires. Essayez d'étudier cela et dites-moi si à la fin, en mettant la date et en signant, vous vous sentez Vous éprouvez un état d'épanouissement et de retrouver. Oui, je me retrouve, c'est moi, c'est moi. Et même si vous avez à écrire, peut-être à mettre encore plus de détails, disons le nom de votre situation maritale, le nom de votre épouse, de votre époux, des enfants. En tout cas, moi, je n'éprouve pas le sentiment d'épanouissement quand je dois remplir ces... Et je me dis que le philosophe à qui j'emprunte cette formule « je ne suis pas ma vie », à savoir Gabriel Marcel, a raison. Il a vu quelque chose de très important. Et parce que je ne suis pas ma vie, je reste indéfiniment curieux de savoir des choses sur d'autres vies. Je suis curieux. C'est la source du commérage et de la littérature est la même. Le commérage et la littérature ont la même ont quelque chose en commun. Hein. Et pour développer donc un peu ce thème et la suite de ce cours développera précisément cette thématique. Je dirais tout d'abord que le cas le plus frappant de non-identité entre je et ma vie est le malheur. Au moment où le malheur nous frappe, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens au malheur qui se disent « voilà, c'est ma vie, c'est ça ma vie ». On éprouve très très souvent le malheur comme quelque chose qui vient du dehors. Et non seulement le malheur, mais même tout simplement l'inattendu. Le dernier vers des Bacchantes, l'avant-dernier vers des Bacchantes d'Euripide est quelque chose comme, si je me rappelle bien, à l'inattendu, les dieux livrent passage. L'inattendu vient d'ailleurs. Le malheur vient d'ailleurs. Il vient d'ailleurs et il est aussi irréductible. On ne peut pas expliquer le malheur. Le malheur a quelque chose qui est inexplicable. Et là, je profite de ceci pour prendre un tout petit peu position contre toutes les doctrines hegeliennes de l'histoire, malgré mon profond respect et disons mon affection pour tout ce que Hegel a pu dire de beau sur l'art. Sa vision de l'histoire est quelque chose qui m'a toujours répugné profondément parce que elle contient cette idée maudite, à mon avis, que le malheur d'une époque, le malheur qu'on inflige à une période, peut être justifié par la préparation d'une période plus heureuse à l'avenir. Le bonheur futur justifie le malheur que je vous inflige aujourd'hui. Non, c'est pas ça. Rien ne justifie. Le malheur est irréductible. Il ne peut pas être justifié. Et je dirais que au XXe siècle, en tout cas, vous verrez que je passerai tout de suite à l'Iliade, mais avant d'arriver à Homère, je fais un détour par un auteur que je trouve être en quelque sorte son correspondant au XXe siècle, c'est l'auteur russe Varlam Shalamov. Varlam Shalamov, dont l'œuvre Les récits de Kolyma est une des plus puissantes réussites artistiques du 20e siècle. Voilà quelqu'un qui écrit dans les lignes. Quelqu'un qui écrit dans les lignes. Et son sujet est le malheur des hommes auxquels un destin impitoyable, qui est incarné dans ce cas, dans une des dictatures idéologiques les plus puissantes du siècle dernier, enlève toute possibilité de mener leur vie comme ils l'entendent. Et j'ajoute tout de suite, comme dans l'Iliade, il n'y a rien de nouveau. Que les personnages de l'Iliade sont des guerriers d'une grande noblesse, d'une grande vaillance, que le poète décrit avec beaucoup d'affection. Et cette affection du poète s'étend non seulement à ces personnages, mais à tout ce que les hommes font. à tout ce que les hommes font. Il s'attarde chaque fois qu'il voit un casque, une arme, il s'attend, il les décrit, il est fier de la capacité humaine de produire ces objets qui sont si beaux et si forts, hein, d'une part. Et d'autre part, il décrit les caprices imprévisibles des dieux. Les desseins d'Agamemnon et de ses alliés, tout ce, comme ceux d'Hector et des Troyens, sont constamment traversés par l'intervention divine. Nos vies sont incompréhensibles à cause de cette présence de puissance infiniment supérieure qui ne justifie jamais leurs actions devant les hommes, des puissances sur lesquelles il est impossible de compter quoi qu'on fasse. Piété comprise. Soyez braves et pieux, semble nous dire Homère. Persévérez sereinement dans vos efforts, bien qu'ils soient très probablement inutiles, et qu'en dehors du spectacle superbe de sa lutte, rien qui vaille ne soit réservé à l'homme. Je vais vous lire ici. Le moment, hein, la fin de Patrocle dans la traduction Mazon, le 16e chant de l'Iliade. Patrocle se jette férocement sur les Troyens. Trois fois il s'élance, émule de l'ardent Arès, en poussant des cris effroyables. Trois fois il tue 9 hommes. Une quatrième fois encore, il bondit pareil à un dieu. Mais à ce moment, se lève pour toi, Patrocle, le terme même de ta vie. Phoebos vient à toi à travers la mêlée brutale. Il vient terrible et Patrocle ne le voit pas venir à travers le tumulte, car Apollon marche vers lui couvert d'une épaisse vapeur. Il s'arrête derrière Patrocle. Il lui frappe le dos, les larges épaules du plat de la main. Les yeux aussitôt lui chavirent. Apollon fait choir alors son casque de sa tête. Le casque que Homère, pour lequel Homère a une tendresse particulière. Le casque au long signé, sous les pieds des chevaux, roule avec fracas. Le panache se souille de poussière et de sang. Eût-il été admis naguère que ce casque à crâne de cheval fût jamais souillé de poussière. C'était d'un héros divin, c'était d'Achille alors qu'il protégeait la tête, ainsi de suite, parce que c'était le casque hérité de, ou pris à son ami Achille. Ou alors, dans le chant 11 de l'Iliade, les Grecs attaquent courageusement. On dit, ainsi l'on voit s'abattre sur un bois épais un feu destructeur que le vent tourbillonnant va portant dans tous les sens. Ainsi, sous l'assaut d'Agamemnon, fils d'Atrée, tombent les têtes des Troyens en déroute. Zeus, cependant, soustrait Hector aux javelines, à la poussière, au massacre, au sang. La protection de Zeus, efficace un instant et peu fiable à long terme. Et ceci en dépit des innombrables cuisseaux de bœuf brûlés par Hector en son honneur, qui étaient inutiles, tantôt, je cite, sur les cimes de l'Ida, au repli sans nombre, tantôt sur son acropole. Il suffira d'un mot bien placé par Athéna, qui dans l'assemblée des dieux dira à son père « faire à la foudre blanche, à la nuée noire? Quel maudit tu l'as? Quoi, un simple mortel, depuis longtemps voué à son destin, tu voudrais maintenant le soustraire à la mort cruelle? Oh, ta guise, mais nous les autres dieux, nous ne sommes pas tous d'accord pour t'approuver. Nous sommes au Parlement. L'assembleur de nuées Zeus, à son tour, réplique. Va, n'aie pas peur, Tritogénie, ma fille. Je ne parle pas d'un cœur tout à fait franc, il n'est pas tout à fait content, mais je veux, avec toi, être débonnaire. Fais suivant tes destins et ne tarde plus. Hector, au casque étincelant, comprend qu'Athéna lui a tendu un piège et que livré au destin, il est voué à la mort. Eh bien non, dit-il, je n'entends pas mourir, ni sans lutte, ni sans gloire, ni sans quelque haut fait dont le récit parvienne aux hommes à venir. Dans les récits de la Colima, le narrateur et les personnages qui sont ces variantes, Golubiev, Andreyev et Chris, se voient eux aussi livrés aux caprices meurtriers de leur maître. L'ancien panthéon a disparu. Nous sommes dans un monde sécularisé, dont je vais tout de suite souligner les dangers. Et dans ce monde strictement humain de Colima, ce qui a remplacé les dieux est une sinistre bande de bureaucrates et de tortionnaires. Ludwig Feuerbach, le grand philosophe allemand, élève de Hegel et qui a eu une telle influence sur Karl Marx. Feuerbach, donc, soutenait, si j'exprime bien sa pensée, que les dieux sont comme une sorte de sites imaginaires où les hommes déposent leurs propres traits portés à l'excès, dis-je. À l'infini, disait-il, parce que les Hegeliens utilisent le mot infini avec le même plaisir que celui qu'éprouve ceux qui, de nos jours, enfin, emploie le mot finitude. C'est, disons, c'est incantatoire pour infini, mais dire excès, disons, à l'excès. Mais pour lui, l'infini était un terme qui lui semblait parfaitement normal, puisque l'esprit, la volonté et l'affectivité humaine sont imbues d'infinité. Et je cite l'essence du christianisme, l'introduction, la deuxième section de l'essence de la religion considérée en général. Il dit tous les attributs de la nature divine, tous les attributs de la nature divine, écrit-il, sont des attributs de la nature humaine. Il a raison. Dans le cas de la Colima, il a raison. Car les dieux reçoivent en dépôt, entre autres, les pulsions humaines les plus abjectes. La soif de toute puissance, la froideur, la cruauté et l'irresponsabilité. Et lorsque les panthéons s'écroulent et que les hommes rapatrient ce qu'ils y ont déposé, en se proclamant maîtres de leur propre histoire, c'est tout d'abord ces pulsions-là qu'il récupère. Il se métamorphose trop souvent, très souvent, à cette occasion, en démon. Libéré de ses chaînes, écrit Chalamov dans un récit qui raconte les rapports du narrateur avec un certain Zuyev, qui s'appelle Zuyev, qui est surveillant dans une exploitation minière, dans la Colima. La Colima, c'est à l'extrémité orientale de la Sibérie, il fait vraiment froid là. Et Chicago, c'est tropical par rapport à la Colima. La probabilité de survie est zéro dans cette mine. Donc ce Zuyev, disons, libéré de ses chaînes, le fauve qui se dissimule dans l'âme humaine cherche à satisfaire avec avidité son instinct primitif par les coups, les meurtres. Je ne connais pas ces personnes qui donnaient l'ordre de fusiller. Je les ai vus seulement de loin, mais je pense qu'un tel ordre repose sur les mêmes forces de l'âme, sur la même attitude morale que l'acte de fusiller, le meurtre qu'on commet de ses propres mains. L'ivresse que donne le pouvoir sur autrui l'impunité, le sadisme, l'art de manier la carotte et le bâton, voilà l'échelle morale d'une carrière de chef. Et il ajoute, avec le grain d'humour morose qui est le sien, « Mais Zouïev, lui, nous battait moins que les autres. Nous avions de la chance. » Zouïev, qui est à l'origine lui-même un prisonnier, il a fini sa peine, il a purgé sa peine, et veut sortir du goulag. Mais la direction, cependant, applique une politique ferme qui empêche le départ par tous les moyens. Pourquoi ? Parce que, commente l'auteur, un convoi de prisonniers, c'est le moyen le plus simple pour peupler une nouvelle terre aride. Maintenant, le narrateur a la réputation d'un lettré, c'est quelqu'un qui sait lire et écrire. Bon, ils savent tous lire, mais lui, il sait bien écrire. Hein. Donc, Zouïev lui demande de composer une pétition en son nom pour demander sa libération. Et s'il compose cette pétition, ou disons, pour qu'il compose cette pétition, il lui offre une journée entière qu'il peut passer dans la cabane bien chauffée du contremaître, un endroit où les prisonniers n'ont même pas le droit d'entrer. Le prisonnier y va, il rédige cette requête, Zaïev la lit, mais il ne l'apprécie pas, il n'aime pas, parce que le ton, il dit, est trop sec, il n'y a pas assez de larmes. Tu m'as roulé, crapule, rugit-il. Tu es resté une journée entière dans la cabane, bien au chaud. Je suis responsable de toi, espèce de salaud, de ta fainéantise. Je risque de la payer d'une nouvelle peine. Je te prenais pour un être humain. Je suis un être humain, répond le narrateur. Un être humain, toi ! Et Zouïev le frappe. Le détenu tombe à terre. Tout en me protégeant des bras, je léchais du bout de la langue un liquide sucré et gluant qui avait coulé aux commissures de mes lèvres. Zouïev me donna quelques coups de botte dans les côtes, mais je ne ressentis aucune douleur. Mener sa vie, en tenir les rênes, pouvoir l'orienter, la voir, to have a life, comme on dit, he has a life. Quelle ironie se cache dans ces expressions du langage courant. Dans l'univers de la Coléma, le simulacre de la toute-puissance, exercée par ceux qui prétendent détenir la clé de l'avenir humain, ce simulacre donc aboutit à des résultats semblables à ceux de l'intervention de l'Olympe dans l'Iliade. La beauté en moins, puisque celle-ci a presque déserté l'univers des prisons parcourues par deux routes glacées, peuplées de prisonniers vêtus de haillons. La fierté, elle, est cependant toujours là, impossible à déraciner du corps humain. Semblable à Hector sur le champ de bataille, le détenu affirme, tout en sachant que cette réponse lui vaudra des sévices, la mort peut-être. Eh bien non, je n'entends pas mourir sans rappeler au maître de l'histoire que je suis un être humain. Dans les prothèses, un autre récit appartenant au même cycle, Chalamov raconte l'arrestation à l'improviste de tous les responsables du camp qui étaient des détenus. Parce que le système était conçu de manière à utiliser les détenus, souvent, ceux d'entre eux en qui on pouvait avoir confiance, et vous verrez pourquoi on avait confiance en ces détenus, pour qu'ils surveillent les autres. Mais de temps à autre, il y avait une sorte de alerte à l'ennemi de classe et surveillants étaient eux-mêmes tous arrêtés et on les arrête tous, on leur enlève les effets qui sont confiés au magazine. Un prisonnier, parce qu'ils doivent passer nu, tout nu, pour être examiné. Un prisonnier dépose son corset en acier. Un autre qui était ancien soldat de Boudionne, et pour ceux d'entre vous qui sont trop jeunes pour savoir qui était Boudionne et qui ne dorment pas encore, ne se sont pas encore endormis, je vous rappelle que Boudionne était un important général de l'armée rouge. Et donc c'était un soldat qui avait lutté sous Boudionne de l'armée rouge. Et il avait perdu son bras pendant la guerre civile et se battait du côté des rouges. Et ce soldat dépose son bras en métal. Le médecin du camp, qui est assez vieux, qui est sourd, remet son appareil auditif. Le colonel Panine, qui a eu la jambe gauche, Panine est un nom qui indique une origine noble, origine aristocratique. Le colonel Panine, qui a eu la jambe gauche arrachée pendant la guerre contre l'Allemagne, détache sa prothèse et saute à cloche-pied jusqu'au cachot. Grisha, qui fait partie d'un monde un peu moins noble parce qu'il fait partie des droits communs, si je me souviens bien, ce qu'on appelait les droits communs. Grisha, le chef de la brigade principale, enlève habilement son œil en porcelaine et le dépose. Arrive le tour du narrateur. Le responsable de cet isolateur, cette prison dans la prison, le contemple en riant. Il dit, celui-là a remis un bras, hein? L'autre une jambe, l'autre une oreille, l'autre un dos, et celui-ci un œil. Et toi? Il m'examina attentivement alors que j'étais nu. Qu'est-ce que tu vas remettre, hein? Ton âme, hein? Non, lui dis-je. Vous n'aurez pas mon âme. Ni Hector, ni le détenu anonyme de la Colima, n'ont la possibilité de conduire leur vie comme si elles étaient véritablement les leurs. Ils ne sont pas leur vie. Ils ne pourraient pas l'être dans un univers qui fait d'eux les jouets des dieux ou les possédés déifiés. Pourtant, ils savent tous les deux qu'une sorte d'appel est possible. Et qu'une force, une fierté, sans nom, est susceptible d'inonder le jeu à l'instant même où la distance qui le sépare de sa propre vie lui apparaît dans toute sa férocité. Le jeu se sent alors comme profondément, comme essentiellement différent de son destin. L'éclosion de cette fierté, et je continue, il est midi 9, midi 10, mettons, midi 10, on fera la moyenne. Si vous permettez, je voudrais continuer encore une quinzaine de minutes, une vingtaine de minutes, ensuite nous aurons une discussion. C'est un peu plus long aujourd'hui parce qu'on a raté un cours au départ et j'essaie de récupérer. Hein. Donc, nous passons donc maintenant à la tragédie qui a comme sujet principal, la tragédie grecque, précisément l'éclosion de cette fierté, qui inonde le jeu au moment où il se rend compte qu'il est essentiellement différent de son destin. Et la tragédie cherche à rendre explicites les enjeux moraux, ou du moins les enjeux les plus évidents, les plus fondamentaux de cette situation. Et une telle explicitation est très difficile à poursuivre dans le feu même de l'action guerrière ou dans les profondeurs de l'enfer humain. J'ai écrit cela, mais je me suis tout de suite rendu compte que parfois chez Shakespeare, c'est exactement ce qu'il essaie de faire dans Le Roi Lear ou dans Macbeth, c'est exact. Mais dans la tragédie grecque, on croit sentir que les auteurs ont préféré quitter le site de la violence et du malheur proprement dit. À l'horizon, on aperçoit encore des ruines fumantes, si vous voulez, et des navires de guerre, comme plus tard chez Racine. Mais dans l'enclos tragique lui-même, l'effet du destin n'est pas simplement le malheur, mais aussi et surtout la perception de son injustice et le sens de son, la réflexion sur le sens de son injustice. Et cette injustice se rapporte parfois aux frontières les plus fondamentales et senties comme infranchissables de ce qui est humain. Il y a très souvent dans les tragédies, je répète ici presque, ce sont presque des banalités, mais je sens un peu le besoin de les répéter parce que trop souvent dans les ouvrages de théorie littéraire ou dans les cours de littérature, on prend Antigone comme le seul modèle de tragédie. Et Antigone n'est pas le véritable ou le seul. C'est un des modèles de tragédie. Il y a des choses qui sont très différentes d'Antigone et je voudrais précisément parler de ceci. Nous voyons très souvent des familles poursuivies par une malédiction. Et cette malédiction les exclut en quelque sorte du sein des humains parce que un de leurs ancêtres ou eux-mêmes s'y sont ou s'en sont exclus en violant, en transgressant par un forfait initial quelque chose qui rend les hommes humains au niveau le plus élémentaire, qui est celui de la nourriture et de la procréation. L'homme n'est pas comestible. Voilà, on parle ici, c'est un peu comme Lévi-Strauss qui a beaucoup réfléchi sur ces choses-là. Lévi-Strauss a beaucoup réfléchi le fait que chez Oedipe, il y a dans le mythe d'Oedipe, il y a une interrogation sur l'origine de l'homme. Mais, je mentionne ces deux thèmes. Le thème que l'homme n'est pas comestible. Et que le deuxième thème, donc on n'a pas le droit, comme on fait les Atrides, d'offrir le descendant de leur rival comme nourriture. Et les liens de parenté sont sacrés. Les liens de parenté sont sacrés, des liens qui protègent et qui interdisent. Lévi-Strauss a très très bien vu la réflexion d'ordre cognitive, la méditation sur cette thématique qui a lieu dans les mythes et dans la tragédie. Mais je voudrais insister ici surtout sur le côté dramatique, parce que la tragédie d'Oedipe, tout en étant une méditation sur l'origine des hommes, et surtout la présentation d'un drame provoqué par cette violation des interdits qui protègent l'humanité de l'homme. Et nous avons l'anthropophagie, donc les sacrifices humains dans l'Orestie, le meurtre du père dans Oedipe roi, la menace de l'inceste dans les suppliantes, qui représentent ici le mal, qui sont la source du malheur. Et ce malheur vient le plus souvent des dieux. C'est les dieux qui punissent et qui poursuivent. Et c'est d'autant plus remarquable de voir Eschyle, comme Sophocle d'ailleurs, proposer quand même toujours la piété envers les dieux. Il y a dans les suppliantes, où ces 50 filles de Danaos se réfugient et essaient de se réfugier à Athènes parce qu'elles sont poursuivies par les 50 fils de Égyptos, leurs cousins. Et elles craignent l'inceste, puisqu'elles craignent l'inceste, elles sont justifiées, mais aussi elles ont peur du mariage. Et là, elles seront punies. Donc, au milieu de cette situation tragique, au milieu de leur malheur, le cœur dit ceci. Roi des rois, bienheureux entre les bienheureux, suprême puissance entre les suprêmes, Zeus comblé, laisse-toi convaincre. Éloigne de ta race l'arrogance des mâles qu'à bon droit tu honnis précipite dans la mer pourprée l'aveugle chiourme de ténèbres. Donc la piété subsiste. Les dieux sont la source du malheur, mais la piété subsiste. Et même dans le Prométhée enchaîné d'Eschyle, où nous entendons le contraire, enfin Prométhée est quelqu'un qui accuse Zeus et qui se révolte, on n'est pas du tout certain, et c'est pas du tout certain que tous ces critiques et ces admirateurs de Feuerbach, qui se placent bien entendu du côté de Prométhée, il n'est pas du tout sûr qu'ils aient raison et que Eschyle est d'accord avec eux, puisque Prométhée est quand même présenté comme un personnage d'une extrême arrogance. C'est le modèle même du hubris. C'est d'ailleurs très, très émouvant de voir que cette tragédie qui se place à un niveau tout à fait supérieur à celui des hommes, parle de nous en nous appelant les éphémères. Comment peut-on se fier aux éphémères? Comment peut-on s'en fier? Les malheurs de Ajax. Dans Ajax, ont la même origine. C'est la vengeance de cette déesse d'une méchanceté extraordinaire, enfin qui est la patronne de la démocratie, mais c'est pas pour cela qu'elle. C'est Athéna qui poursuit Ajax et qui le rend fou. Qui le rend fou? Souvent dans les tragédies, les dieux rendent les mortels, les éphémères, fous. Ajax, croyant massacrer ses ennemis, massacre le bétail et il devient la risée de tous les Grecs au point que, à la fin, il se suicide. Il commet le suicide sacrificiel. Héraclès devient fou chez Euripide. Dionysos, déguisé, un des premier dieu caché, le dieu était caché même à l'époque de l'anthropomorphisme, ce dieu caché est scandalisé par la résistance qu'on oppose à ces rites qui se moquent des traditions et de la famille. Donc c'est un dieu ennemi de la nature, comme on aurait pu dire au XVIIe siècle. Et ce dieu ennemi de la nature, pour se venger du fait qu'il n'est pas reconnu, il rend cette reine agavée folle, l'amenant à tuer son propre fils Panthée dans l'extase, lorsqu'elle est en proie à l'extase religieuse. Elle revient à elle-même. Voilà la scène. Cadmos, qu'est-ce que cette tête que tu tiens dans tes bras? Agavée, celle d'un lion, m'ont dit les chasseresses. Cadmos, voilà donc de plus près, un regard suffira. Agavée, horreur, que vois-je? Mes mains, que tiennent-elles? Cadmos, regarde encore, assure-toi bien d'avoir vu, parce qu'évidemment elle tourne la tête. Agavée, ah, je vois la plus atroce des souffrances, malheureuse que je suis. Te semble-t-il encore que ce soit un lion? C'est Panthée dont je tiens la tête, infortuné. J'avais pleuré sur lui avant que tu l'aies reconnu. Qui l'a tué? Comment se trouve-t-il entre mes mains? Cadmos, cruelle vérité, tu arrives trop tard. Agavée, parle! Mon cœur frémit de ce qu'il doit encore entendre. Cadmos, c'est toi qui l'as tué, avec tes sœurs. Et le dieu se présente devant elle et lui explique la raison de cette folie. Hein. Il lui explique qu'elle doit payer pour ne pas avoir respecté le culte de Dionysos. Et alors Agavée pose la question fondamentale. Celle qui annonce Feuerbach. Annonce même des choses que Feuerbach, dans sa gentillesse, le personnage du XIXe siècle n'a jamais pu entrevoir le potentiel démoniaque de cette inversion. Les dieux, dans leur rancune, doivent-ils imiter les hommes? Et les hommes, j'ajouterai, lorsqu'ils rapatrient le divin, doivent-ils imiter ces dieux-là? Du moins, dans la tragédie grecque, peu à peu, la révolte contre le malheur se fait-elle clairement entendre. Et la piété envers les dieux qui en perpétuent le règne perd petit à petit sa naïveté. Et effectivement, en demandant les dieux dans leur rancune, doivent-ils imiter les hommes? Agave exprime, disons, cette perte de la naïveté. Il va de soi, cependant, qu'à l'autre bout de l'histoire, à Columa, le correspondant moderne de la piété, à savoir la dévotion vouée aux projets idéologiques, Akoloma s'est perçu d'emblée par tout le monde comme la preuve irréfutable de bêtise. Les gens qui croient à tout ça, c'est vraiment les plus bêtes. Et c'est pour cela que, vous voyez, à cause de ces exemples, que je pense que ceux pour qui la tragédie type est Antigone ne voient pas, voient quelque chose de tout à fait essentiel sans voir l'ensemble du spectacle ou l'ensemble de la situation. Puisqu'il est vrai que dans Antigone, cette héroïne a le choix. Elle a le choix. Mais ceci est rare. C'est rare que le héros tragique ait vérité. Je vous ai donné ici des exemples de héros qui sont affolés par la divinité, que le malheur frappe sans qu'ils aient aucun choix. Le grand sujet de la tragédie grecque demeure quand même le malheur. Et cette possibilité de choix ne fait que sortir un tout petit peu de la thématique du malheur qui frappe, du malheur qui frappe et de la fierté. Car ce malheur ce malheur frappe les personnages et la fierté. Dans la tragédie ancienne, comme dans celle qui a eu lieu sous les auspices des soi-disant maîtres de l'histoire, la fierté consiste à sentir et à proclamer que l'homme n'est pas réductible à son malheur et que les rênes de sa vie, les rênes de sa vie ont beau lui être enlevées. Lui, le cocher ligoté au char que d'autres poussent dans le précipice, lui, il sait pertinemment qu'il n'est pas identique à sa chute. Voilà.